Yves Robert Hommage-Kahn, Le cri du remords. Comme le souvenir est voisin du remords. Victor Hugo, Les Contemplations. Chapitre 1. Paris, 6 novembre 2011. Il pensait le chargeur vide. Il ne l'était pas. La balle pulvérisa un pan de la cloison. L'affiche sous verre intitulée « Les merveilles d'encore au Grand Palais » dégringola sur le parquet. Il contempla hébété et le visage du roi Javanavalam VII, dont le sourire bienveillant avait désormais laissé place à une fantaisie hideuse et obscène. Un lancement soudain le fit porter la main à sa tête. La douleur fulgurante s'estompa, bien vite remplacée par un son difficilement définissable, tenant à la fois du sifflement et du chuintement. Il n'aurait pas pu dire à cet instant si le bruit émanait de l'intérieur de sa boîte crânienne ou si la source s'en trouvait autre part. Dès lors, le caractère quasi surnaturel de ce grésillement s'imposa, tandis qu'un trouble inhabituel l'envahissait. Machinalement, Pierre Ribaud porta son index à l'oreille et se dirigea vers la salle de bain tout en pensant à Lourdes. Si elle avait été présente, elle n'aurait pas manqué de lui reprocher sa bêtise à tripoter cette vieille carabine toute chargée de surcroît. Avait-il aussi besoin de manipuler cet engin dangereux ? Besoin ne semblait pas vraiment le mot approprié, se dit-il. Il avait agi comme ça, sans idée précise, comme on caresse un chat familier, en laissant vagabonder au loin une imagination fantaisiste. L'arme n'était pas superbement accrochée à un râtelier, mais là, debout, dans un coin retiré de l'appartement, qui servait généralement de penderie et que personne ne fréquentait d'habitude, sauf comme débarras. Le souvenir d'un séjour ancien en Sologne lui revint en première mémoire. Une tombola, organisée en fin d'une journée consacrée à l'écoute du brame du cerf, l'avait désigné comme heureux gagnant de l'objet. Il avait accepté le présent à contre-cœur et l'avait oublié dès son retour dans un coin de cette pièce où personne n'y avait plus touché. Il n'appréciait pas particulièrement les armes à feu. La dernière qu'il avait eu à utiliser l'ayant été une quarantaine d'années auparavant, dans le cadre de son service national, dont le souvenir n'évoquait en lui rien de bien plaisant. La présence d'un projectile dans le fusil ne pouvait s'expliquer que par une négligence coupable dont le responsable demeurerait à jamais inconnu. Depuis fort longtemps d'ailleurs, il ne fournissait plus aucune explication à son épouse. Désormais, leur relation, bien qu'apaisée, se limitait, lorsque le hasard les faisait se croiser, à l'échange de formules de politesse. Elle, âgée de 38 ans, responsable marketing d'un laboratoire pharmaceutique, ne résidait guère plus de 2 jours par semaine à Paris. Lui, à l'orée de la soixantaine, se partageait entre New York et Hong Kong, l'esprit sans cesse préoccupé par la recherche d'objets susceptibles d'intégrer sa galerie d'art. Sans émotion, ils avaient constaté le déclin régulier de leurs rapports amoureux, auxquels s'était progressivement substitué une relation affective, certes, sans heurts, mais dont aucun feu ne venait plus rougir les braises. Leur amour, si amour il y eut, n'avait jamais reposé sur le sous-socle de la complicité. Une fois envolée, l'excitation provoquée par la fréquentation d'un nouveau partenaire, une lassitude précoce avait gagné leur couple et avait engendré l'installation progressive d'une solitude à deux. Dans l'armoire à pharmacie, il y avait quelques flocons de solutés auriculaires. Il en saisit un au hasard et laissa couler dans son oreille droite plusieurs gouttes d'un contenu huileux. Le son prit aussitôt une tonalité plus grave, momentanément atténuée, pour très vite reprendre un caractère obsédant, voire menaçant. Quelques perles de sueur apparues sur son front, ainsi qu'une vague sensation de nausée, l'informèrent de l'imminence du malaise vagal auquel ne manquait jamais de survenir dès qu'une contrariété se montrait à l'horizon, en particulier touchant à son état de santé. L'apparence du personnage ne trahissait dans aucune façon ses accès fréquents de faiblesse. Bien que de stature au-dessous de la moyenne, il émanait de lui un aspect de force et d'autorité peu commune. Ses gestes, toujours maîtrisés, son aisance évidente imposait un respect qui lui était devenu naturel de susciter en tous lieux et circonstances. Il en était conscient et ne manquait jamais d'en profiter. Le regard inquisiteur qu'il portait sur ses interlocuteurs, impression intensifiée par la mobilité rare des paupières, glaçait la plupart d'entre eux. Il avait le cheveu encore épais, d'une teinte brune, seulement parcourue par quelques traînées grises, qui coiffaient un visage méfiant à la dureté soulignée par les tempes dégagées. Une image à la Rollin, par Van Eyck. Il s'allongea sur un des divans qui meublait l'immense couloir de l'appartement bourgeois du 16e arrondissement parisien. Les jambes surélevées, comme le lui avait recommandé à de nombreuses reprises sa fille Aurélie, il saisit le smartphone afin de contacter celle vers laquelle se dirigeaient ses pensées dès qu'il estimait sa santé menacée par un danger non identifié. À trois reprises, il balaya de son pouce la surface polie de son téléphone avant d'arriver à déverrouiller l'appareil. La photo miniaturisée de sa fille apparut. Elle surmontait la mention « cabinet médical ». À son grand soulagement, ce ne fut pas le message enregistré qui lui répondit, mais la voix grave et calme du médecin auquel il décrivit ses symptômes d'un ton inhabituellement hésitant. Le diagnostic claqua tel une nouvelle balle. En médecine, on nomme ce bruit acouphène. Derrière ce charabia se cache un truc pas grave en soi, mais assez embêtant, car tu risques de la conserver un certain temps. De le conserver un certain temps. Mais qu'entends-tu par un certain temps? Ben, un mois, 6 mois ou plus. Il est guère évident de prévoir la durée de ce genre de phénomène. Je te conseille néanmoins de consulter rapidement un otorhino qui vérifiera ton audition et te guidera au mieux. Mais ce n'est pas trop grave, demanda-t-il, la voix de plus en plus inquiète. Généralement pas. Cependant, la gêne occasionnée est plus ou moins bien supportée, plus ou moins bien vécue. Certains s'en accommodent sans trop se plaindre. D'autres nous harcèlent afin qu'on leur propose une solution qui n'existe pas actuellement. Pour toi, l'avenir nous le dira. À bientôt. Surtout, ne t'inquiète pas trop. Tu vas survivre. Les acouphènes, il en avait certes une vague notion, mais pensait que cela était propre aux personnes âgées et appareillées, celles dont les prothèses émettent parfois des larcènes stridents, et certainement pas aux individus tels que lui, d'à peine 58 ans, et ne souffrant ni d'aucun trouble auditif antérieur. Avec fébrilité, il consulta des sites internet qui ne se révélèrent pas très rassurants sur le sujet. Il préféra ne pas pousser plus loin les recherches, et brutalement, saisi d'une fatigue profonde, il laissa tomber le smartphone au bas du canapé. Son regard se porta sur une des moulures du plafond. Une araignée insolente la garnissait d'une toile de bave collante. L'acouphène chantait sans faiblir. Pierre n'entendait plus que lui.
Chapitre 2. Paris, 7 novembre 2011. Il se dirigea vers le hall d'entrée de l'hôpital. Ce qui l'attendait était connu de lui, une terreur ancienne épisodiquement réactivée. Cette odeur difficilement définissable de détergent, de maladie, de sueur et de peur mêlée, qui brutalement serre la gorge, fait monter la nausée. Le choc de la lumière artificielle et blafarde des couloirs, pour finir, la peur, la trouille, sans nom. Tentant de respirer le plus calmement possible, ce qui en cette occasion s'appartenait chez lui à un exploit, il dépassa la galerie dans laquelle s'entassaient les malades convoqués pour les consultations publiques. Assis sur des bancs alignés, il paraissait attendre un train dont la destination prendrait le nom d'une maladie plus ou moins connue, plus ou moins maligne. L'espace de l'hôpital, consacré aux consultations privées du professeur Chaussois, lui parut à peine plus accueillant. Toujours la même odeur, toujours la même lumière, toujours la même chaleur artificielle et suffocante, malgré la clémence de ce mois de novembre. Là résidait certainement la cause du trop célèbre fantasme, la nudité sous une blouse transparente. Il se prit à ricaner à cette pensée grivoise, survenue sans aucune créature de nature à exciter sa libido. Le désir saisissant de être, à l'ombre d'une biopsie ou d'un examen de crachat, le mariage d'Eros et Thanatos, voilà pour dépasser son entendement. Le professeur Chaussois, de belle prestance, avait la chevelure argentée que ses mains aux longues manucurées laissaient de manière répétée. Il s'honorait d'appartenir au cercle des amis de longue date de Pierre Ribaud. Chassant une poussière imaginaire de sa blouse immaculée et ornée du seul badge indiquant sa qualité de chef de service, il se cala au fond du fauteuil en cuir, retira ses lunettes et, en un geste élégant, « Mon cher Pierre, ton audiogramme n'a révélé aucune anomalie. T'as une sacrée chance, car malgré ton âge, plus très loin de 60 ans, ton audition reste excellente. Alors je présume que je dois me déclarer comblé. Je ne suis pas sourd, bon, mais voilà, je suis venu te consulter pour ce sifflement qui m'emmerde, ce bruit de soufflerie. Il gueule depuis 2 jours et risque de me rendre dingue. Quelle solution rapide, si possible, peux-tu me proposer ? Pas aussi simple, mon cher. Nous avons affaire à un symptôme qui constitue, je l'avoue, un problème délicat, dont les patients se plaignent en permanence, et à juste titre. Ton oreille interne a été endommagée par le coup de feu. Ton nerf auditif résonne tout seul en permanence, d'où ce cri et le son que tu entends. L'évolution en est imprévisible. L'acouphène s'en va, revient à son aise. Il est en quelque sorte autonome. Plus le patient est relax, moins le bruit se fait sentir. Le stress ou l'anxiété sont ses terrains de jeu favoris. Oh, nous disposerons hélas d'aucun traitement efficace. Peut-être pourrais-tu tenter les thérapies des groupes de parole. Ces derniers mots firent bondir Pierre hors de son siège. Il s'écria, en prenant appui sur le bureau à pleine main, « Mais tu es en train de me dire que tu ne peux rien, hormis me proposer des réunions dans lesquelles des gusses vont me recevoir en disant « Bonjour, nous souffrons tous ici d'acouphènes. Veuillez nous raconter votre vie, nous vous écoutons. » « Oh non, ça très peu pour moi. C'est juste bon pour les toxicos et alcoolos. Si tu te trouves dans l'impossibilité de me proposer un traitement sérieux, je vais devoir me débrouiller seul. » Chaussois afficha un sourire qui se voulait apaisant. « Tu caricatures toujours tout. Si tu souhaites vraiment t'en sortir par toi-même, tente alors de l'oublier, de le laisser en paix dans son coin, de le banaliser. » Pour ce faire, détends-toi, pars en vacances. Tu n'en as pas pris depuis des années. Il est important que tu ne te laisses pas envahir par l'acouphène. Ne le laisse pas te dicter sa loi. Il retraversa bien vite en sens opposé le hall de l'hôpital, ne sachant s'il devait se sentir soulagé ou bien au contraire accablé. Un chariot, poussé par une aide-soignante, émit un couinement strident. L'acouphène hurla. Ribot se précipita dehors. Il avait toujours joui d'une santé insolente et n'était atteint par aucune des pathologies qui frappent souvent les individus après la cinquantaine. Les bilans médicaux, qu'il pratiquait deux fois l'an, ne révélaient aucune anomalie, excepté les petits malaises de type vagal dont il était coutumier. La maladie lui demeurait personnellement inconnue, ce qui ne l'empêchait pas de développer une hypochondrie, tant bien que mal gérée avec une multitude de remèdes. Grâce à ses rituels, les troubles légers, fort bien identifiés par lui, ne résistaient pas longtemps. Ils étaient certes bien vite remplacés par d'autres symptômes, mais aussi bénins que peu réfractaires aux médicaments usuels. Pour la première fois, s'imposait à lui un diagnostic qu'il ne maîtrisait en aucune façon et face auquel la médecine se déclarait impuissante. Chaussois lui conseillait d'oublier cet acouphène. Bon, il en parlait à son aise, n'étant pas malade lui-même. Mais cet acouphène de malheur, allait-il l'oublier, lui, Pierre Ribot? Oublier, oublier, comme s'il était facile d'oublier. Regagnant le parking, il constata une profonde rayure sur le pourtour de sa berline. Un imbécile avait occupé son temps de cette façon, pour s'amuser sans doute. Oh, décidément, la semaine commençait bien mal. Il perçut une lassitude inhabituelle prendre possession de son corps et l'accueillit presque avec résignation. Chapitre 3. Sa galerie, spécialisée en arts asiatiques, occupait un emplacement privilégié rue Bonaparte, au cœur du fief doré des antiquaires parisiens de renom. Contrastante avec les établissements voisins, elle n'offrait, vu de l'extérieur, aucun signe d'appel ostentatoire, aucun objet en vitrine, aucun élément susceptible de susciter l'envie de sonner à la lourde porte blindée. Seule une petite plaque dorée indiquait « Pierre Ribot, expert en art d'Asie ». Expert, il l'était depuis plus de 30 ans, reconnu même comme le meilleur dans son domaine, celui de l'archéologie chinoise. Ses confrères de Londres, New York ou Hong Kong requéraient son expertise lorsqu'ils se trouvaient confrontés à des cas épineux et aucun d'entre eux n'aurait pensé se discréditer en agissant de la sorte. Nul besoin de publicité tapageuse ou de devanture racoleuse. Tous les collectionneurs fortunés de la planète connaissaient son adresse et ne manquaient jamais, lors d'un voyage à Paris, d'y prendre rendez-vous afin de s'informer de la présence d'un objet rarissime, extrait récemment d'une tombe chinoise jusqu'alors inviolée. Les acheteurs admis dans le Saint des Saints s'adressaient à lui en veillant à adopter un air à la fois respectueux et reconnaissant, alors que ses yeux noirs prenaient soin de fixer un point situé à l'horizon, bien au-delà de leurs épaules, de manière à leur signifier l'intérêt, somme toute mineur, d'une transaction éventuelle. Il avait intégré à sa pratique de se montrer méprisant et élitiste, réservant son attention à un nombre volontairement restreint de personnes, au budget de préférence illimité. Il suscitait l'envie du commun à la façon de ces endroits baptisés VIP, dans lesquels seuls quelques élus ont le privilège d'accéder, nourrissant par là même les fantasmes et la convoitise des prétendants refoulés. Entre les mains de Ribot, toute œuvre acquérait un statut exceptionnel. Le moindre bronze archaïque, la terre cuite la plus banale, voyait son estimation multipliée par 10 dès que ses doigts s'y étaient portés. Étrange magie, due en partie au nombre incroyable de faux en circulation, dont il pouvait par simple toucher déterminer le caractère fallacieux. Sa personnalité imposait ses avis et diagnostics de manière tranchante et irrévocable. Il se savait incontournable en dépit d'un physique que d'aucuns auraient qualifié de banal. Un objet recalé par Ribot se trouvait condamné à alimenter une salle de vente mal cotée de province. Une pièce remarquée par lui attisait la curiosité et la convoitise des conservateurs des musées nationaux les plus réputés. Lorsque sa courte silhouette apparut dans le reflet de la vitrine, Richard, son collaborateur, cheveux blonds tout en mèches, savamment agencés, cravate rouge sur chemise blanche et costume noir, s'empressa de venir l'accueillir, délaissant pour ce faire un couple de visiteurs auquel il délivrait quelques secondes auparavant, d'un air volontairement affairé, des informations ayant trait aux quelques pièces exposées ce jour. Un simple coup d'œil suffit à Rivaux pour jauger les deux importuns, manifestement non clients de la galerie et dont la mine laissait peu de doute sur le fait qu'il ne le serait jamais. Il passa sans saluer, gravit les marches du vieil escalier en colimaçon qui succédait à son bureau. Il s'écroula dans son fauteuil Chesterfield. Rassemblant ce qui lui demeurait d'énergie, il pressa le bouton « marche » de son ordinateur afin d'y recueillir le dossier rassemblé 2 jours auparavant à la demande d'un conservateur du British Museum. Ribot détestait le maniement de l'outil informatique. Il laissait le soin à ses collaborateurs d'effacer sans y répondre les différents courriels pour avis et conseils adressés chaque jour par les collectionneurs du monde entier. Le message « Erreur finale »« Disk boot failure » apparut dès la mise en route du PC. Le plongea dans une sensation d'anéantissement jamais ressentie jusqu'à ce jour. Lui, capable de déchiffrer les inscriptions oraculaires de la dynastie des Shang, se trouvait, comme d'habitude, complètement dépourvu lorsque la machine imbécile affichait des signes d'information kabbalistique. Dans son état de fatigue présent, la panne informatique s'apparentait à une nouvelle épreuve qu'il refusa d'affronter. L'acouphène stridulait comme un oiseau en état d'alerte. « Se détendre !» avait conseillé le professeur Chaussois. Ribot tenta de se concentrer sur sa respiration. Il avait appris ça dans un traité sur le yoga. Il laissa son regard se poser sur les 2 statuettes en terre cuite Tang, signe du zodiaque chinois à tête de bœuf et de lapin, qui faisant face à son bureau, et subitement, il se souvint que la version papier du dossier sommeillait quelque part dans la pile des catalogues d'exposition antérieures. Sans quitter son fauteuil, il étendit le bras droit pour aménager un espace libre sur une étagère de la bibliothèque située juste derrière lui, afin d'y entreposer les ouvrages au fur et à mesure de son inventaire, et qu'il pouvait ainsi les étudier sans trop d'efforts. Il fut surpris lorsque ses doigts rencontrèrent une plaque de bois d'une 20aine de centimètres de long sur 15aine de large, et dont un angle coupant le blessa légèrement à l'index. Une vague de chaleur submergea ses entrailles alors qu'il approchait la petite icône russe de son visage. Disparue depuis plus de 20 ans, elle daignait enfin réapparaître. De médiocre qualité, elle figurait la montée au ciel du prophète Élie, le char tiré par des chevaux ailés. Ce n'était pas le thème de l'ouvrage qui avait attiré l'attention de Carole lorsqu'elle l'avait aperçu pour la première fois. C'était plutôt cette polychromie aberrante, faite de bleu, de rouge criard, d'ocre et de doré, qui l'avait séduite et amusée. Sans qu'elle l'eût demandé, mais à la seule fin de lui plaire, Il avait poussé la porte de cette petite galerie de la rive droite, et très vite, sans même discuter avec l'antiquaire arménien, propriétaire des lieux, il avait, pour quelques pièces d'argent, fait l'acquisition de l'objet. Quel parcours tortueux avait suivi cette icône jusqu'à la galerie de la rue Bonaparte! Il n'aurait pas pu le dire, mais en revanche, ce qu'il put savoir, revoir dans l'ombre d'un doute, c'était la tenue vestimentaire que portait Carole ce jour-là, un béret négligemment posé sur sa chevelure blonde, une robe moulante en laine écrue, une paire de ravissantes bottines. Carole, qu'aucun homme pourvu d'une dose normale de testostérone ne pouvait croiser sans se retourner. Carole, son amour. Carole, sa blessure. Chapitre 4. Paris, juin 1979. 2 semaines s'étaient écoulées depuis mon divorce. J'avais 26 ans. J'émergeais d'une période longue et noire, en grande partie consacrée à la lutte contre la jalousie paranoïaque de Mira, ma première épouse. Le vif intérêt que nous éprouvions tous deux pour les antiquités nous avait fait nous rencontrer alors que nous avions à peine 20 ans. Vie commune, mariage, naissance d'une petite Aurélie, premières années de bonheur. Notre passion nous menait en permanence dans la quête éperdue d'objets à acquérir. Inconscients de la difficulté de la chose, nous avions décidé, sans expérience aucune, d'ouvrir notre galerie. Hélas, le succès escompté le fut guère au rendez-vous. Les dettes s'accumulèrent rapidement. Je sentais de pallier à ce que je pressentais comme un échec annoncé, en multipliant les déplacements afin de découvrir la pièce archéologique rarissime, celle qui nous ferait connaître la célébrité. Du moins, c'est ainsi que je présentais la chose. En vérité, je ne faisais que fuir les impatiences et les doutes affichés de Mira, situation qui se désagrégeait de manière inexorable. Elle ne comprenait pas mes absences répétées. Souvent, elle m'accusa d'infidélité conjugale. J'ai d'abord protesté, mais en vain. Je ne sus m'expliquer ni réagir. Dirais-je, je ne l'ai jamais su. Je préférais, comme toujours, jeter les gants. Je flottais alors dans un éther vertigineux, mélange de sensations cotonneuses indéfinissables, de liberté grisante et de solitude anxieuse. Sentiments étranges, inconnus par moi à l'aube de la maturité. Ce mercredi-là, le directeur de l'Institut national du patrimoine m'avait donné congé vers 17 heures, sans qu'aucun projet ne soit de nature à occuper le restant de mon après-midi. Les derniers jours parisiens de juin se paraient d'un parfum de pré-vacances, d'une teinte de paresse propre à cette période de l'année. Je n'avais nulle envie de regagner mon petit appartement, d'y retrouver l'étau qui me saisissait la gorge dès que j'en avais franchi le seuil, ainsi que les tristes verres de whisky du soir. J'avais quitté la rue Vivienne et laissé mes pas me guider en direction du Marais, siège d'une animation intense en ce milieu de semaine. On y croisait des parents avec des enfants profitant du jour de congé scolaire, des livreurs affairés, des couples homosexuels libres de se tenir par la taille dans ce quartier où une telle attitude n'entraînait aucune réaction d'ostracisme, aucune ironie moqueuse. L'idée de flâner sans but précis le long des arcades de la place des Vosges m'avait paru séduisante. J'en pris donc la direction, l'esprit satisfait de cette décision. Je déambulais ainsi pendant plus d'une trentaine de minutes, occupé à des rêveries tantôt pleines de promesses ou d'ennuis. Il me sembla, soudain, m'être quelque peu égaré. Je m'arrêtai donc et cherchai à me repérer, lorsque mon regard se porta sur l'hôtel de Soubise. Ses jardins à la française, encadrant l'imposant édifice, exercèrent d'emblée sur moi un pouvoir attractif. Je m'approchai d'un peu plus près et remarquai l'encart dressé sur le portail d'entrée, annonçant une exposition exceptionnelle de manuscrits. Cédant à une envie soudaine, je décidai de consacrer une demi-heure de mon temps à la visite de cette présentation. Je ne suis pas à proprement parler ce qu'on appelle un homme à femme. Le peu d'assurance quant à mon physique, ainsi que la timidité que j'éprouve face aux représentantes du beau sexe, se sont révélés souvent préjudiciables à mes entreprises de conquête, de sorte que de nombreuses jeunes filles que je convoitais au lycée ou lors de mes années universitaires me sont demeurées pour toujours de parfaites étrangères. Cependant, lorsque je la vis, je ne pus m'empêcher de la suivre. Non pas que sa tenue vestimentaire, une paire de jeans usés, un long manteau noir sans grande forme, peu adapté à la saison, dissimulant un t-shirt bon marché, fussent de nature à détourner le regard. Ce furent le port de la tête blonde, le pas ample et harmonieux, la ligne altière qui créèrent en moi un trouble brutal, lequel laissa immédiatement place à une attirance irrépressible. Je tentais de feindre un intérêt pour les manuscrits présentés en vitrine, mais je ne quittais plus des yeux la silhouette élancée. Mon pouls s'était accéléré, une sueur collante humidifiait mes mains, mes tempes pulsaient au rythme d'un tambour sauvage. Je décidai, quasiment sans réflexion, dans cet état d'excitation hors norme, de tenter mon va-tout. Je me plaçai derrière elle. Penchée au-dessus d'un bureau en verre, elle déchiffrait ce qui semblait être un poème de Rimbaud. Je jetai un regard rapide sur l'ouvrage. Oui, c'était bien cela. C'était le sonnet composé avec Verlaine et des plus licencieux qui soient, le sonnet du trou du cul. Le canard féminin dans les moiteurs enclos sait faire beaucoup pour masquer le véritable sexe auquel appartient cet orifice. Ne croyez-vous pas? Demandai-je d'une voix hésitante en passant la tête au-dessus de l'épaule de la jeune fille. Elle ne répondit pas immédiatement, se retourna et me fixa de ses yeux gris aux reflets bleutés qu'encadraient des cils très noirs, bien que sans mascara. La beauté du visage, à la force d'une gifle, me fit perdre toute velléité. Son sourcil droit se dressa presque sévèrement, mais sa voix rauque, caractéristique aux intonations moqueuses, acquiesça. « Oui, je suis d'accord avec vous. Celui de la femme n'est pas tapis ainsi parmi les mousses, comme dit le sonnet, du moins ce qu'il me semble. » Et sans plus se soucier de moi, elle s'éloignait déjà. Soudain, l'éventualité de la perdre à jamais me fit toujours en moi inacceptable, intolérable. Me rapprochant de nouveau, je me lançai, comme seul le courage du désespoir le permet. Oh, on ne se connaît pas, mais si vous voulez faire mon bonheur, ne me refusez pas votre numéro de téléphone, peut-être que... La réponse immédiate fut un regard narquois. Puis elle continua sa visite, disparut dans le couloir de la longue galerie pendant que je restais interdit, me sentant au comble du ridicule. Combien de temps restais-je ainsi debout, lamentable et ridicule? Quelques minutes, une heure? Je me maudis alors. Je maudis cette hardiesse insensée dont j'avais fait preuve et qui est souvent l'apanage de timides désespérés. Soudain, une main dont deux doigts maintenaient un morceau de papier griffonné se posèrent sur l'arrière de mon épaule gauche. La voix grave, aux intonations légèrement chantantes, murmura « Je m'appelle Carole. » Chapitre 5. Je m'étais fait violence pour ne pas l'appeler le soir même.
La nuit fut agitée, et empreinte de périodes d'attente anxieuse et d'excitation quasi juvénile. Question récurrente et vaine, avait-elle quelqu'un dans sa vie? Des heures durant, je l'imaginais simplement de passage à Paris, fiancée, peut-être mariée à un étudiant de province. J'allais jusqu'à soupçonner le numéro de téléphone d'être un faux, à l'accuser de s'être joué de moi. Je pensais devenir fou, sinon avoir vécu un moment d'irréel total. Cette rencontre tellement extraordinaire avait un aspect si inattendu, si merveilleux, que j'en doutais plusieurs fois. Le sommeil enfin me saisit alors que la nuit pâlissait déjà. Lorsque je rouvris les yeux, quelques instants plus tard, la conviction me serra la poitrine. J'étais amoureux, vraiment amoureux, et pour la première fois de ma vie. Mira, bien sûr, j'avais cru l'aimer, mais Carole. La place de l'Odéon ne constituait pas un point de rendez-vous follement original. Cependant, cette idée s'était imposée de façon évidente à mon esprit lorsque Carole m'avait demandé de choisir un lieu de rencontre. Et afin d'auto-excuser mon déficit d'imagination, je m'étais rallié à la multitude des relations amoureuses noué sous le regard de Danton qui trônait, tête encore sur les épaules, au centre de cet espace aussi fréquenté que Saint-Germain-des-Prés. Le flot continu des voitures, les cinémas, les files d'attente qui empiétaient sur la chaussée, la foule des étudiants, certains debout en alerte, d'autres assis à même les trottoirs près des kiosques de journaux, les cymbales des témoins de Jéhovah, avait engendré chez moi un léger tournis. Un temps, j'avais fermé les yeux, m'étais efforcé de rechercher calmement une fille aux cheveux blonds, allure de princesse, quoique habillée d'un gilet ordinaire, d'un manteau long et noir. Lorsqu'elle jaillit de la bouche du métro, je marquai une hésitation. Le soleil m'éblouissait, s'éclatant en milliers de particules phosphorescentes. Elle me souriait, jupon en crinoline, bustier jaune clair, dégageant des bras hâlés, socket en dentelle, souliers vernis. Tout autre qu'elle eût semblé ridicule dans cet accoutrement plus que rétro. Carole était simplement sublime. Je fus frappé par son allure de danseuse, de gymnaste, cheveux ramassés en une queue de cheval balancée en cadence rapide. Lorsque son visage fut près du mien, j'admirais les pommettes hautes, les sourcils froncés, dessinés en courbes légères, ses yeux gris clairs irisés de nuances profondes qu'encadraient des cils longs et charbonneux. Une légère empreinte de sueur faisait briller le duvet blond et discret au-dessus de la commissure des lèvres que je devinais subitement salé. Il m'appartenait de prononcer les premiers mots, mais ma gorge asséchée s'y refusa. Mon cœur battait des records, mes jambes se dérobaient, tout le solide abandonnait mon corps comme un navire en perdition. Elle me saisit un bras. « On s'extrait d'ici ?» L'expression tenait plus de l'ordre que de la demande. Chapitre 6. On avait traversé le boulevard Saint-Germain, baigné par la poussière dorée de cette fin de journée estivale. Oh, il me semblait avoir basculé dans un monde différent. Les bruits de rue ainsi que les images me parvenaient avec distorsion, comme passés à travers un filtre dont j'ignorais la nature. Sans trop savoir comment, je me retrouvais assis à la terrasse d'un café dont la spécialité consistait en de nombreuses variétés de cocktails alcoolisés à base de rhum. Elle avait parlé de Spinoza, de Schopenhauer, de Nietzsche, qu'elle disait confondre un peu. Elle me confia qu'elle poursuivait des études de philo après avoir interrompu celles de droit. Elle avait évoqué une foule d'autres choses encore. J'avais entendu tout cela de très loin. L'exiguïté de l'endroit faisait que nous occupions une petite table, serrés l'un contre l'autre. Un mouvement ascendant de son jupon blanc avait laissé apparaître, de manière presque impudique, un fragment de peau mordorée. Malgré mes efforts, je n'avais pu détacher mes yeux de ce petit bout de cuisse dont je vivais les premiers instants d'offrande. « Mais tu ne m'écoutes même pas !»« Mais si, tout à fait. Tu me donnais justement les résultats des derniers matchs de foot du championnat japonais. » Elle rit franchement. « Mais tu sais te montrer amusant. Voilà qui est intéressant avec les filles, paraît-il. Et toi, que fais-tu dans la vie ?» Sa bouche souriait toujours, malicieuse, la lèvre inférieure collée au verre de pina colada. J'avalais une rasade de rhum blanc pur. L'alcool me brûla l'œsophage, envahit mon estomac à jeun depuis 48 heures et diffusa vers mon cerveau. Une vague de chaleur traversa mon corps alors qu'il me semblait recouvrer un semblant d'assurance. J'étudie les objets anciens ainsi que les civilisations, la civilisation chinoise en particulier. Je collectionne aussi des antiquités et je... Ah, tu veux dire que tu as chez toi des vieux fragments de poterie, des têtes en bronze coupées et autres trucs de ce genre? Oui, c'est à peu près ça. Mais quel est donc l'intérêt de posséder de telles choses alors que tous les musées du monde en regorgent? Ben, je ne sais pas. Acquérir peut-être un fragment de leur éternité, m'inscrire dans leur histoire. Tu as donc peur de la mort? Qui n'a pas peur de la mort? Les philosophes comme toi, peut-être. Elle rejeta la tête en arrière et déclara: Oh, je n'ai pas peur de la mort, car j'espère mourir jeune. La mort me fait peur qu'aux vieilles personnes qui redoutent de quitter leur peau fripée. Elle passa un bras parfumé autour de mon cou et me susurra: Bien, j'ai une envie furieuse de musique et de plats épicés. Chapitre 7. Paris, 17 novembre 2011. Ribot avait alors laissé derrière lui l'Institut et s'était engagé sur la passerelle des arts afin de gagner le quai Malaquais. Les milliers de cadenas qui ornaient les parapets proposaient comme cadenas d'amour par les vendeuses pakistanais, toujours présentes sur le lieu, firent plisser sa bouche en un sourire amer. Des marques d'amour indélébiles sur des cadenas, mais quelle connerie! L'amour qui compte, mais le seul vrai, ça ne s'écrit pas sur du matériel, ça se grave à l'intérieur des tripes, dans la chair et pas ailleurs, maugréa-t-il à mi-voix, à l'adresse d'un homme qui, assis sur un banc, consommait une boîte de bière. Plusieurs passants jetèrent un regard interloqué vers cet individu vociférant qui semblait en avoir cure. Dépassant le clochard, il avait pris appui sur un des parapets en prenant garde de ne pas se blesser au fil de fer cisaillé, témoignage des vols dont bien des rangées de cadenas avaient fait l'objet. Ils salopent même leur amour de pacotille, les vandales, se dit-il. Ces démonstrations en public, cette perte de contrôle, étaient inhabituelles chez lui. Il en prit subitement conscience et en fut profondément troublé. Il secoua ses épaules, cligna plusieurs fois rapidement des paupières et s'abîma dans la vision époustouflante qu'offrait l'île Saint-Louis sous le ciel nuageux. Notre-Dame, observée depuis le pont des Arts, offrait l'aspect d'un guetteur en pierre, droit et fier sur un radeau. Sa contemplation le rasséréna quelque peu, et c'est à regret qu'il en détourna les yeux afin de reprendre sa marche. Il marqua un temps d'arrêt devant l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, dont le tocsin est réputé pour avoir donné le départ du massacre de la Saint-Barthélemy, puis les idées sous la main plus précise, il traversa la rue de Rivoli après avoir longé le musée du Louvre. La rue de l'Oratoire ne se trouvait plus très loin. Une inquiétude quant à la survivance de la petite galerie d'antiquaires se fit jour à son esprit. Il le fut rassuré qu'en apercevant la devanture rouge, en tout point identique à celle connue autrefois. En vitrine, le sourire de deux anges médiévaux de part et d'autre d'un tabernacle en bois accueillait le visiteur. L'ensemble reposait sur un tapis en velours côtelé, associant le vert au doré, et offrait aux yeux une scène naïve mais émouvante dans sa simplicité. Le son d'une petite clochette annonçait tout visiteur. L'intérieur de la galerie, modeste dans ses dimensions, lui parut tout d'abord vide de toute présence humaine. Des étagères ornées de statuettes gréco-romaines et égyptiennes en occupaient le flanc gauche. Un canapé, croulant sous des tapis kilim, semblait somnoler à droite de l'entrée, dont le mur opposé présentait un ensemble disparate d'icônes dorées, pareilles à celles qui jadis avaient tant charmé Carole. Surgissant d'une pièce contiguë, apparut une frêle silhouette dont les mouvements mesurés et empreints d'une certaine noblesse indiquaient un âge certain. Ribot la reconnut sans hésiter. Le temps n'avait que peu altéré les traits du personnage dont les rides gardaient captive une idée de jeunesse, comme si, lassé par une proie difficile, Cronos s'en était définitivement détourné. L'expert tendit une main raide tandis qu'il déclamait ses identités et titres. Le visage avenant de l'antiquaire montrait ce sourire timide, ineffaçable, comme pour s'excuser d'être là. Il portait une fine moustache blanche et ne manifestait aucune émotion face à son interlocuteur, contrastant de la sorte avec les réactions habituelles suscitées par les visites de Ribot à ses confrères. « Ainsi vous êtes galériste et expert. Oh, les temps ne sont pas propices pour nous actuellement. Il nous est souvent difficile de joindre les deux bouts. Asseyez-vous, je vous prie. Je vais vous préparer un café. » La voix, aux intonations orientales, traînant sur les dernières syllabes, semblait une invitation permanente à une pause, à un répit salutaire. La chaleur qui s'en dégageait créait aussitôt un climat de confiance, de ce que l'on ressent lors de la fréquentation d'amis de longue date. Abasourdi par le fait que son patronyme soit inconnu de quelqu'un appartenant à la profession, Ribot s'assit lourdement sur un entassement de tapis. Peu après, la porte de la petite boutique s'ouvrit de manière timide, laissant apparaître un jeune homme dont l'aspect trahissait l'étudiant, plus préoccupé par les études que par la recherche vestimentaire. « Je vous prie de bien vouloir m'excuser, mais je suis en quête d'un petit objet. C'est pour un anniversaire, vous comprenez, enfin, quelque chose de pas trop cher. » dit-il en s'adressant à Ribot. Confus par la méprise du jeune homme, il n'a pas eu le temps de répondre que l'antiquaire, une cafetière à la main, était réapparu depuis sa petite cuisine. « Oh, nous avons plein de choses à vous proposer. Installez-vous, je vais chercher les objets abordables qui pourraient vous intéresser. » Le petit homme ouvrit un tiroir et disposa, sous les yeux émerveillés de l'étudiant, un nombre conséquent de pièces, aussi diverses que variées, puis se mit en devoir de lui enseigner en quoi consistaient les différences entre une statuette du Gandhara et une représentation gréco-romaine, quelles étaient les particularités des petits bronzes islamiques ou des serviteurs égyptiens en terre cuite, répondant au nom de Houslibis, ainsi qu'une foule d'autres explications. À l'issue d'une demi-heure de discussion, le choix se porta sur une bague byzantine en bronze de la valeur modeste de quelques euros. Cette pratique contrastait en tout point avec celle pratiquée par Ribot, qui distillait son savoir en tel un élixir précieux destiné aux seules âmes jugées dignes de le recevoir. Interloqué et passablement irrité de voir le métier pratiqué de cette façon, il se redressa subitement et, laissant les deux protagonistes interloqués, il se dirigea vers la porte qu'il prit soin de bien faire claquer. Dans son oreille, l'acouphène hurlait comme un démon. Chapitre 8. Paris, 18 novembre 2011. L'hôtesse, assise derrière un imposant bureau en bois clair, décrocha son téléphone dès qu'elle le vit fouler le tapis en velours rouge qui garnissait le hall d'entrée de la salle des ventes. Le commissaire-priseur, aussitôt informé, reçut la nouvelle comme un coup de poing au plexus. Ribaud, physiquement présent lors des enchères. Mais cela ne s'était plus observé depuis une dizaine d'années. La dernière fois, lors de la vente d'une collection exceptionnelle qui avait donné lieu à des batailles farouches entre les principaux musées nationaux et privés. Depuis, l'expert demeurait invisible. Certains prétendaient qu'il chargeait parfois ses employés d'enchérir par téléphone lorsque son œil averti avait décelé un objet rarissime, perdu au sein de la multitude des œuvres d'un catalogue. Cependant, aucune certitude ne régnait à ce sujet, ce fait passant pour une légende de celle que les commissionnaires aiment rapporter lors de la pause déjeuner. Perplexe, Maître Gorgeat se rua sur le fascicule descriptif de la vente du jour. Il y découvrit, certes, quelques objets chinois, mais d'un intérêt tout relatif, sans provenance prestigieuse, dont aucune estimation n'excédait les 5 000 euros, donc en toute logique n'était pas de nature à motiver le déplacement de Ribaud. Celui-ci fit son entrée en se mêlant à l'assistance, composée en grande partie de retraités présents afin de tuer le temps, de quelques marchands asiatiques toujours à la recherche d'une bonne occasion, ainsi que d'une poignée de collectionneurs passionnés mais impécunieux. Il prit place au sein de la deuxième rangée de l'immense salle, loin d'être comble en cette occasion. Conscient que sa seule présence créait un émoi quasiment palpable, il entreprit de se consacrer à l'étude minutieuse du catalogue d'exposition du jour. Art d'Asie, vente courante. Les premiers lots défilèrent à bonne allure. Seules quelques secondes étaient consacrées à chaque enchère. La vente avait débuté depuis plus d'une demi-heure et aucun objet n'avait encore trouvé preneur. La salle semblait retenir son souffle comme dans l'attente d'un événement exceptionnel. Lui, apparemment observé dans la contemplation du mince ouvrage, présentait au regard de la salle le sommet de son crâne dont une tonsure débutante menaçait la toison. Soudain, un bronze archaïsant, datant du début de la période des Ming, fut annoncé. Il s'agissait d'un vase tripode banal, une pâle et grossière imitation d'une production de Shang, dont l'estimation se voyait modestement comprise entre 600 et 800 euros. Après 2 secondes de mise aux enchères, et alors que le commissaire-priseur s'apprêtait déjà à toquer son marteau contre la table en bois, indiquant par cette action l'absence d'adjudication, la tête de Ribaud se redressa lentement, puis effectua un léger mouvement en avant. Gorgeat, manifestement surpris, marqua un temps d'hésitation. Devant le geste réitéré de Ribaud, il se reprit et annonça d'une voix forte la somme de 1 200 euros. Mais la phrase n'était pas aussitôt prononcée qu'un marchand chinois levait déjà la main pour surenchérir. Un troisième acquéreur potentiel, toujours chinois, se manifesta à son tour. À toutes les trois estimations, Ribot adressait un signe imperceptible au commissaire-priseur qui, hors d'haleine, annonçait les prix maintenant équivalents à 10 fois l'estimation initiale. Les paliers entre deux enchères s'élevaient présentement à 2 000 euros, sans qu'aucun des protagonistes ne semblât exprimer des signes de renoncement. L'acouphène, comme aux aguets, se faisait plus supportable. Le Chinois, les yeux rivés sur l'expert, guettait la moindre expression de son visage, attestant de la poursuite de son intérêt pour ce lot. Puis, une fois rassurés, les Chinois se manifestaient bruyamment pour enchérir et surenchérir. Le spectacle semblait ne jamais devoir prendre fin. Et après que Gorgias, la face congestionnée et les yeux injectés de sang, eut annoncé la somme de 220 000 euros, la tête de Ribot, objet de toutes les attentions, se déplaça de gauche à droite, signifiant ainsi la fin de sa participation à la partie. Une salve d'applaudissements jaillit de la salle lorsque le commissaire-priseur abattit avec rigueur son marteau et hurla « Adjugé !» L'acquéreur chinois se leva, l'air hébété, saluant l'assistance de manière hésitante et un peu ridicule, exténué comme au sortir d'un long combat enfin gagné grâce à un courage surhumain. Profitant de la confusion ambiante, Ribot se glissa subrepticement hors de la salle de vente et entreprit de regagner au plus vite la sortie de l'établissement. Une main agrippa son épaule. Le visage luisant et sanguin de Gorgias lui fit face. Les commissaires reçurent labial relevé en un sourire mi-complice, mi-incrédule. « Alors, postilla-t-il, explication du maître ?»« Que veux-tu savoir exactement ?» demanda Ribot, soudain très las, à la limite de l'épuisement. « Ben, dis donc, ce truc, enfin, ce vase que tu as fait monter si haut, on est tous passés à côté. C'était donc un vrai bronze archaïque et pas une imitation ?»« Oh, par toi, mon vieil ami, j'ai rien vu d'archaïque dans cette vente. » Le commissaire-priseur porta ses mains à son cou, défit avec difficulté le premier bouton de sa chemise et hurla presque. « Mais nom de Dieu, qu'a-t-il de si exceptionnel, ce putain de vase? 220 000 euros qui va cracher le chinois, tu te rends compte ?»« Lui a rien trouvé d'exceptionnel. Tu le décris dans ton catalogue comme un vase tripode Ming. Moi, je le crois plutôt au début du siècle. » Tu t'es montré généreux dans la présentation que tu en as faite. Mais ce n'est pas moi qui ai fait le descriptif, dit le commissaire-priseur, maintenant étrangement pâle. C'est un expert qui me rend quelques services pour les ventes de peu d'importance. Rassure-toi, je n'ai jamais souhaité réellement acquérir ton rossignol. Je dirais simplement, encore une fois, sonder la profondeur de la bêtise humaine. Je souhaitais te montrer que les types qui viennent chez toi, comme chez moi d'ailleurs, ne sont plus motivés par l'amour du beau. Ce sont des gars à la recherche de bons placements. Nous ne sommes plus des marchands d'art, nous sommes des banquiers. Ton Chinois pense avoir fait une affaire qu'il pourra revendre à Hong Kong en empochant un joli magot, au passage, et c'est tout. A contrario, j'ai rencontré il y a peu de temps un antiquaire qui a passé près d'une heure avec un étudiant à l'alphabet pour finalement lui vendre une bague à 100 euros. Oh, le con, mais bordel, pour mon vase, non pas un con, un rêveur, tout simplement, qui veut continuer à vendre du rêve. Quant à ton vase, ne dis rien au Chinois. Il est content, n'est-ce pas là l'essentiel? Oh, je vois que tu ramollis du genou, fit Gorgias, en affectant un sourire ironique. Ribot marqua un temps d'arrêt. Une brève lueur de colère passa dans ses yeux, vite remplacée par un sourire de satisfaction. « Bon, je t'ai plutôt prouvé, il y a 10 minutes, que je bande encore, et même plutôt bien. Certes, oh, nous faisons du fric, et comme tu as pu le constater, je demeure expert en la matière, mais est-ce satisfaisant? Qui servons-nous? Là, les clients, nous-mêmes? Es-tu heureux ainsi, Gorgin, avec ta jolie commission? Pose-toi donc la question.